Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Et bienheureux celui qui ne trouvera pas en moi un obstacle qui le fasse trébucher. Vous pourrez lire aussi peut-être dans d'autres traductions, heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Ou bien encore, bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire à travers ces paroles? Le Christ met en garde les disciples de Jean, et nous-mêmes aussi, devant ce qui peut paraître à leurs yeux une ignominie, une usurpation d'identité. En effet, quelle est l'attente, quelle est l'espérance du peuple d'Israël? Bien, c'est qu'un sauveur vienne délivrer le peuple du joug de l'envahisseur. Et que voit-il? Eh bien, il voit un homme doux, humble, un homme qui guérit les infirmes, les laissés pour compte. Et pourtant, cela a été annoncé par Isaïe. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, dit-il. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Tout ça, c'est dans Isaïe. En somme, le Christ rappelle ces paroles, non pour Jean qui se trouve dans sa prison et qui connaît les textes de la loi et qui connaît les prophètes, mais pour le peuple et pour les disciples de Jean, qui ont difficile de faire le lien entre cet homme Jésus et le libérateur annoncé dans les Écritures. Trébucher, perdre la foi, être scandalisé, c'est ce qui risque d'arriver lorsqu'ils verront le Christ mis à mort comme une brebis, acceptant jusqu'à la mort de porter les péchés du monde. Et saint Paul le rappellera d'ailleurs dans son épître aux Corinthiens, « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Il est difficile de croire que Jean-Baptiste doute dans sa prison. Lui qui, voyant passer Jésus, disait un peu avant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste, c'est un prophète, c'est même le plus grand des prophètes, nous dira le Christ. Il atteste que le Christ est le Fils de Dieu. Souvenez-vous, il disait, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Saint Jérôme, saint Hilaire, saint Jean Chrysostome, voit dans l'envoi par Jean-Baptiste de ses disciples vers le Christ pour poser la question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» une façon de leur ouvrir les yeux, de les amener à comprendre que celui qu'ils doivent suivre, c'est le Christ, ce n'est pas lui, Jean-Baptiste. Lui, il n'est que le messager du Christ. Ce n'est pas en somme la lune qu'il faut regarder, mais c'est le soleil, et la lune n'est que le reflet du soleil. Il les invite ainsi à une expérience personnelle auprès de Jésus, qu'ils voient de leurs yeux les actes, les gestes du Christ, qu'ils entendent sa parole. Ce sont les disciples de Jean qui étaient dans le doute. Ils avaient idolâtré Jean-Baptiste, et d'une certaine façon, ils étaient jaloux du succès de Jésus. Et l'apôtre Jean, d'ailleurs, dans un des épisodes, nous montre qu'il y a peut-être une certaine rivalité entre les deux groupes. Et il dit, à propos des disciples de Jean-Baptiste, « Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont à lui. » Pour eux, Jean-Baptiste est un rabbi, un maître. Et Jésus semble avoir maintenant plus d'adeptes que Jean. Alors, ils doutent. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés en suivant Jean-Baptiste ? La réponse de Jésus ne s'adresse pas uniquement aux disciples, mais à nous tous, qui sommes aussi régulièrement assaillis de doutes. Est-ce que nous ne faisons pas fausse route ? Et la semaine dernière, notre père évêque nous rappelait le sens de l'Église. C'est au Christ que nous sommes appelés à nous greffer. C'est du corps mystique du Christ que nous sommes invités à devenir une cellule, pas à une organisation ou à une institution. C'est le sang du Christ qui doit couler dans nos veines. C'est le Christ qui doit vivre en nous. Et cela n'est possible que si nous le prenons pour modèle, si nous essayons de l'imiter dans nos gestes, dans nos actes, si nous nous nourrissons de ses paroles. Saint Grégoire le Grand, lui, donne une autre interprétation de la question de Jean-Baptiste à Jésus. Pour lui aussi, Jean-Baptiste ne doute pas que Jésus soit le rédempteur du monde. Mais il cherche à savoir si celui qui était venu en personne dans le monde, donc le Christ, va aussi descendre en personne dans les prisons infernales. Il voit plutôt une demande de Jean qui, dans sa prison, sent qu'il va bientôt entrer dans la mort. Et à travers sa question « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?», Jean demande que, comme il fut le précurseur de la naissance du Christ, celui qui a annoncé au monde que le Sauveur était venu, il devienne aussi le précurseur de sa mort et qu'il annonce aux enfers que le Christ va venir. Voilà, c'est une autre interprétation, c'est parfois un peu plus difficile, je ne vais pas dire à comprendre pour nous, mais à en tirer quelque chose qui soit utile pour notre vie de tous les jours. Mais enfin, voilà, c'est un autre père de l'Église qui nous donne cette interprétation. Enfin, je voudrais terminer avec cette phrase « Il ne s'est levé parmi les fils de la femme personne de plus grand que Jean le Baptiste, et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » D'un point de vue spirituel, la grandeur d'un homme ne dépend pas de ses œuvres. Ce n'est pas dans le rôle joué par Jean-Baptiste d'être le précurseur, d'être le messager du Seigneur qui appelait le peuple au repentir que Jean-Baptiste est grand. Ce n'est pas cette fonction qu'il exerce qui le rend grand. La grandeur de Jean-Baptiste repose sur l'humilité de sa personne. Sa grandeur nous est donnée par sa parole « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Souvenez-vous des paroles de Jésus aussi, « Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Celui qui est petit, qui est doux, qui est humble, qui est simple, celui-là sera grand dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, la grandeur d'une personne se mesure à son humilité. Et l'humilité est le fruit de l'amour, car l'amour, c'est faire passer l'autre d'abord. C'est se donner sans rien attendre en retour. Et qui, à votre vie, est le plus petit dans le royaume de Dieu ? C'est Jésus lui-même. Personne n'a atteint son degré d'humilité. Il s'est humilié au point de devenir le plus petit dans le royaume de Dieu. Lui qui était égal à Dieu est devenu homme. En tant qu'homme, il a pris la condition de serviteur, la condition d'esclave. Et rappelons-nous le lavement des pieds lors du Jeudi Saint. Lui qui, de serviteur, est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Il est difficile, je crois, d'aller plus loin dans l'amour et dans l'humilité. C'est pourquoi il est le plus grand dans le royaume de Dieu. Alors à nous de mettre nos pas dans les pas du Christ, dans les pas de Jean-Baptiste, et de devenir toujours un peu plus un petit. Au Seigneur soit honneur, gloire et louange. Amen.